Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat.
On est très heureux de vous retrouver cette semaine sur Zero to One avec Cyril Grislin, investisseur hors pair qui compte à son actif 23 exits, dont 5 licornes, une spécialité rare. Sauver les startups au bord du gouffre. Dans cet épisode, on parle de ce qui fait, selon lui, la vraie réussite d'une startup et comment passer de 0 à 1 puis scaler sans se crasher. Salut Cyril, comment ça va ?
Donc merci de me recevoir, moi je m'appelle Cyril, on se parle depuis New York où je vis depuis quelques années, je vivais à San Francisco auparavant, donc ça fait pas mal de temps que je suis aux États-Unis, j'ai des liens depuis très très longtemps avec les États-Unis parce que je travaillais dans une boîte de conseil qui s'appelle McKinsey, dont j'ai des partenaires, qui est américaine à la base, très américain dans l'état d'esprit et aussi la façon de conduire les affaires. J'ai fait quatre choses dans ma vie. J'ai monté deux boîtes de tech. À l'époque, .com, j'ai monté un des tout premiers sites d'enseignement d'anglais qui a été racheté par un réseau d'éducation en anglais brésilien. Monter des boîtes de tech à l'époque, c'était des défis et des complexités d'une toute autre nature qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que le marketing était facile, mais faire tourner le site web et réussir à faire payer les gens était extrêmement difficile, simplement parce qu'il n'y avait pas de système pour accepter les cartes de crédit. Donc il a fallu qu'on code tout ça. Et tout était chez nous, le hardware, le software. On avait nos propres serveurs, nos propres routers. Donc on avait des problèmes de hardware aussi importants que les problèmes de software aujourd'hui qui n'existent plus avec le cloud. La deuxième boîte que j'ai montée, c'était à San Francisco. C'était dans la médecine préventive que j'ai décidé de fermer après 3 ans pour y revenir. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est que j'ai été partenaire de McKinsey pendant de nombreuses années et je faisais un métier un peu particulier chez McKinsey qui était qu'on faisait quasiment de l'intérim management dans des situations de restructuration, de turnaround, des buyout par des fonds de private equity, préparer des IPO. Donc toujours des situations assez intenses et avec des enjeux à la fois opérationnels, humains et stratégiques très très intenses. La troisième chose, c'est que j'ai eu des moments de ma vie où je me suis arrêté de bosser pour faire des choses pro bono. Par exemple, j'ai fait partie des gens qui ont conduit la candidature de Rio aux Jeux Olympiques de 2016, qu'on a gagné quand j'étais au Brésil à l'époque. J'ai vécu 12 ans au Brésil. J'ai aussi passé quelques années en Tunisie, dont je suis originaire, après McKinsey, pour participer de ce qui est devenu le printemps arabe et qui ne s'appelait pas comme ça quand j'ai commencé à m'impliquer au niveau du gouvernement, de la société civile, de l'environnement politique, de la transition du pays vers un régime démocratique. Et la dernière chose qui est peut-être plus proche de ce qu'on fait, enfin pour boucler la boucle avec le fait que j'ai monté deux boîtes de tech, c'est que j'ai investi dans plus de 50 startups, à peu près 30 en Europe et 20 dans la Silicon Valley. J'ai commencé à investir en 2009, juste après le crash. Et j'ai dû voir, enfin je sais que j'ai vu plus de 10 000 startups pour en choisir une cinquantaine. Et un portefeuille qui, ma foi, se passe très très bien parce qu'on a déjà 23 exits et encore 18 startups en plein vol avec des décacorns, des unicorns américaines et évidemment une dizaine qui n'ont pas abouti, mais c'est partie du jeu et de l'apprentissage. Et j'investis de façon très très différente, avec des thèses complètement même opposées, je dirais, quand j'investis en France que quand j'investis aux États-Unis, par exemple. Voilà.
Merci Cyril pour cette introduction. Alors juste pour revenir sur le début de ton parcours, tu as mentionné que tu as travaillé chez McKinsey dans tout ce qui était turnaround, IPO, etc. Du coup, je voulais te demander en quoi cette expérience t'a formé aujourd'hui dans ton parcours, dans ton parcours d'investisseur. Comment tu utilises ce que tu as appris pour conseiller ou investir dans une boîte? Et voilà, si tu pouvais nous en dire plus sur ça.
Bien sûr. Écoute, alors de bien des manières, même si les boîtes étaient effectivement beaucoup plus grosses que ce que sont les startups au début, mais certaines des startups qui deviennent des scale-up et qui deviennent des grandes entreprises finissent par rejoindre un peu la taille des boîtes avec lesquelles je travaillais à l'époque. Et alors, écoute, de bien des manières, d'abord, j'avais la main dans la pâte tout le temps, donc tu apprends va t'apprendre sur la gestion des gens, les opérations, comment organiser les choses, comment faire en sorte d'être plus efficace, recruter, virer. Donc en fait, tous les aspects du business, je me suis fait la main comme ça, tu vois. Donc en plus d'avoir géré des boîtes petites, j'ai vu ce que c'est que de gérer des organisations un peu plus complexes. J'ai appris à naviguer dans des environnements qui sont tendus, difficiles, parfois à la limite de casser l'élastique. Et dans les startups, c'est quand même assez fréquent, malheureusement, hein, et de réussir à la fois d'anticiper ces moments-là pour essayer de les éviter, et puis une fois qu'on y arrive, de réussir à traverser et d'arriver sain et sauf de l'autre côté. Donc ça, c'est des choses que j'ai appris à ce moment-là. J'ai aussi appris l'extraordinaire importance de certains sujets auxquels on ne fait pas trop attention quand on est fondateur au début, ce qui est naturel, mais qui finissent par te rattraper. Et souvent, quand les startups ne vont pas bien, c'est ces sujets-là qui font que ça casse, qui sont les sujets de dynamique entre fondateurs, les sujets tu vois, de l'efficacité des 4-5 personnes qui dirigent la boîte en tant qu'équipe, à travailler ensemble, à réussir à naviguer les opportunités, les défis, la gouvernance, comment est fait ton board, qu'est-ce qui s'y passe, est-ce que tu vois, est-ce que ton board résout tes problèmes ou t'en crées, les gens donc t'acceptent de l'argent. Moi, je dis toujours que quand t'es fondateur, l'argent a une odeur, contrairement à ce qu'on dit, et il faut faire vachement gaffe à l'odeur que tu mets dans ta boîte, quoi. Et donc tout ça, je l'ai appris là parce que c'était souvent des situations très difficiles où il y avait où des investisseurs arrivaient un peu avec des gros sabots, prenaient le contrôle des sociétés, etc. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé comme ça. Il y a plein de choses dans les startups qui sont particulières qu'on n'apprend pas dans cet environnement-là. Et puis peut-être le dernier point, c'est que bah, ça tanne le cuir quand même, tu vois. Et à force de t'en prendre dans la figure, tu vois, ça te fait évoluer en tant que, tu vois, de capacité d'absorber des choses ou d'avoir le courage de t'attaquer à certaines choses, d'ouvrir ta gueule quand tout le monde la ferme, alors que tu sais que le truc, ça va pas, quoi. Et puis, j'ai aidé beaucoup. Dans ma vie, j'ai travaillé à sauver 8 entreprises de la faillite. Et vivre dans ces moments-là, ça forme parce que t'es face à la réalité brutale, honnête et pure, quoi. Et malheureusement, dans le monde des startups, il y a le fameux fake it until you make it que je déteste et qui fait qu'on vit souvent en dehors de la réalité. Et d'avoir vécu ces moments extrêmement, ce qu'on appelle brutally honest, où t'as pas le temps de tergiverser, t'as pas le temps du bullshit parce que chaque jour qui compte, qui passe réellement compte à survivre, faire survivre ta boîte, tes équipes, tes clients, la continuité de ton service et tout. Dans les startups, ça manque beaucoup, malheureusement. Ça commence à tomber un peu dur là, depuis quelques années sur tout le monde. Mais de l'avoir vécu, ben, peut-être que ça me permet d'aider les fondateurs un peu différemment, d'anticiper les choses. Et c'est arrivé. J'ai sauvé pas mal de startups de la faillite grâce à ce genre de réflexe, on va dire, et cette capacité à faire face à ces trucs-là tranquillement, quoi.
Avant de parler sur un peu toutes les raisons pour lesquelles les startups font faillite, je sais que tu as mentionné le terme le board d'une startup et le mot synergie. Est-ce que pour nos auditeurs qui sont pas trop au courant qui connaissent pas trop ces termes, est-ce que tu pourrais décrire ce qu'est un board, ce qui constitue un board et comment constituer le meilleur board possible en tant que fondateur?
Ouais. Alors, un board, donc, c'est un groupe de personnes qui supervisent le CEO. C'est le job numéro 1, hein, du board. C'est de nommer, superviser, aider, remplacer si nécessaire le CEO. Et le board représente généralement l'actionnariat principal de la société et parfois intègre des personnes qui sont considérées indépendantes, dans la mesure où elles apportent leur savoir-faire, leur expertise, mais sans forcément représenter d'actionnaires. Donc ça, c'est le board. Toutes les entreprises du monde ont un board, même s'il n'y a qu'une seule personne dedans. Effectivement, dans les startups, c'est un organe de gouvernance assez fondamental, dans la mesure où il peut soit être extraordinairement utile, soit être extraordinairement dérangeant, voire destructeur. pour le parcours d'une entreprise très jeune. C'est quand on lève de l'argent, je dirais, dans des montants un peu conséquents, et notamment avec des VC, c'est quasiment impossible de ne pas avoir un board. Avec les angels, en France, souvent, on finit avec un board, parfois assez conséquent, alors qu'on n'a pas l'argent de VC. Et c'est déjà une anomalie, française. Moi, pour ma part, quand j'investis dans des startups, j'investis à différents stades, mais généralement assez tôt, même si ce n'est pas que le cas. Je fais très attention d'abord à la taille du board. Et on a une tendance en France à aimer la bureaucratie, à aimer comment dire, à aimer les comités de toute nature et les régulateurs de toute nature que ce soit. Les startups françaises, par rapport aux startups américaines, dans leur jeune vie, ont tendance à avoir beaucoup trop de gens dans le board. Et en plus, il y a des mécaniques qui s'installent, d'équilibre de pouvoir, qui font que si tu as deux investisseurs qui rentrent, ben, tu essaies de mettre trois personnes de ton côté pour avoir l'avantage au board, ben, tu te retrouves avec un board de cinq. Et ce qui fait que les fondateurs, en fait, passent un temps tout à fait déraisonnable dans les startups françaises au début de leur vie à travailler pour le board ou dans le board plutôt que pour leurs clients, dans leurs produits, dans leurs équipes. C'est la tendance over-regulator française et européenne qui s'exprime. Ensuite, le deuxième souci à faire attention avec les boards, c'est que les boards ont tendance à être des millefeuilles. C'est-à-dire qu'à chaque round, on rajoute des gens qui sont les gens qui ont investi dans le round. En France, c'est quasiment automatique, sauf si ceux qui ont investi, c'était déjà là avant. Mais comme on essaye de faire entrer des nouveaux à chaque investissement, il y a toujours un, deux qui s'ajoutent, et puis tu finis avec des boards de 9. J'ai déjà vu des boards de 11 personnes.
Ah oui,
Et moi, je
waouh.
considère qu'au-delà de 5, c'est plus un board, c'est une assemblée.
Surtout sur des startups en série A, en série B, avec moins 60 boards, c'est compliqué d'avancer rapidement sur l'exécution, quoi. C'est
Bah,
plus
c'est même pas que
important
ça, en
que tu
fait.
travailles, que tu as à mettre 10 personnes à la boucle.
C'est plus difficile d'avancer sur l'exécution, mais c'est pas que ça, en fait. C'est que ça crée un mindset dans la boîte, et une culture qui est une culture de réglementation, en fait.
Corpo,
Ouais.
ouais, corpo
Oh,
quoi.
réglementation. Par exemple, moi, j'ai annoncé sur LinkedIn un truc il y a quelques temps parce que je me suis dit, tiens, je ne l'ai jamais dit, je vais le dire parce que les gens qui prennent le temps de lire mon LinkedIn avant de m'envoyer leur dossier, ça sera clair. Je n'investis jamais dans une boîte avant la série B qui a un CFO. Jamais. Enfin, sauf des cas extraordinairement rares, c'est-à-dire tu fais une néobanque, il faut quelqu'un qui passe son temps à gérer le régulateur et que tu as décidé d'avoir une licence bancaire, ce qui est extrêmement rare, mais c'est des cas extraordinairement particuliers. Mais quand il y a un CFO en pre-seed, je sais que la boîte, ça va pas aller. Je sais que le mindset est
Même un
faux.
CFO part-time? Un CFO part-time, un mec qui va juste gérer les finances ou qui va.
Si je le vois sur le deck, c'est qu'il y a un problème dans la tête de quelqu'un quelque part là-dedans par rapport à ce que c'est que
Yes.
le.
Ouais,
Attends,
il
je vois
devrait
un
faire
truc.
du M&A, ouais.
Pas besoin
Il
de.
fallait faire du M&A.
Moi, c'est très simple. CFO, ça veut dire Chief Finance Officer. Et moi, je dis qu'avant que la série B, il n'y a pas de Finance to Chief.
Ouais.
Tu lèves ton argent, tu fais gaffe à ton fric, t'es fondateur, t'as pas besoin d'un mec pour te dire qu'il faut arrêter de dépenser, quoi. Si tu as besoin de quelqu'un qui te dit que tu dépenses trop, il y a un problème fondamental d'ADN. C'est parce que tu n'as rien d'autre en fait avec l'argent, à part le dépenser. Et si tu le dépenses selon des règles de retour sur investissement, tu le dépenses selon des règles héroïstes, tu le dépenses selon des allocations de budget pub, tu le dépenses selon les bonus que tu donnes à tes vendeurs, tu le dépenses selon les différents outils que tu utilises en fait pour faire de l'acquise et de la rétention. Un CFO n'a rien à voir avec tout ça. Et puis généralement, les CFO, ils ont fait des études qui font qu'ils sont incompatibles avec ce genre de logique. Dans la très grande majorité, je veux dire, je ne vais pas les insulter tous, mais c'est très très rare qu'un CFO soit ton meilleur buddy en tant que fondateur pour décider comment tu alloues ton budget d'acquise, tu vois.
Ouais.
L'autre chose, c'est que dès que tu rajoutes quelqu'un dans une boîte, ce quelqu'un, il a besoin d'exister, il faut qu'il invente des trucs. Donc tu mets un CFO, il va inventer des tableaux, il va inventer des trucs à remplir, des process, il va vouloir faire une boîte qui est carrée, alors qu'une startup qui est carrée, ben, ça sert à rien. Parce
Ça
que
n'existe pas.
startup, ça roule, donc il faut que ça soit rond. Mais c'est très français, ça, tu vois. Très français. Moi, aux
Ouais.
États-Unis, je n'arrive pas à me souvenir de la dernière fois où j'ai reçu un pre-seed, seed ou series A avec un CFO. Sauf de nouveau dans des cas extraordinairement particulier, généralement hyper régulé ou hyper fintech. Ça peut arriver, mais c'est 1 sur 1000, 2000. Donc, et les boards, ça fait partie un peu de cet esprit-là. Alors, il y a des boards qui sont extrêmement utiles, extrêmement rares, et quand ils sont utiles, c'est généralement à des moments très particuliers. Il n'y a pas besoin de se réunir tous les mois, tous les 3 mois pour trouver ces moments-là. Évidemment, si tu fais
Est-ce
un
que
board.
tu penses que...
Ouais.
Est-ce que tu penses, par exemple, que le board d'un Mistral, il est utile à leur niveau, depuis le premier jour?
Je sais pas qui y a dedans. Je sais que Mistral avait tellement d'argent très vite au début qu'il y a beaucoup de gens qui avaient les chocottes de filer des chèques aussi gros à cinq mecs qui avaient encore pas fait grand-chose mais qui sont brillants. Et donc tout le monde voulait aller dans le banc pour vérifier ce qui se passe avec leur fric. Combien des mecs qui sont sur board passent du temps avec les fondateurs? Moi, la question que j'ai, c'est, tu vois, à regarder le produit, à regarder la stratégie de vente, à regarder est-ce que les premiers utilisateurs trouvent que le produit est tellement extraordinaire que ça va remplacer du ChatGPT en Europe, etc. Je sais pas. Mais si le board de Mistral fait ça autour des fondateurs, bah super, tu vois. Si le board de Mistral leur apporte du vrai business, de l'ARR, super. Si le board de Mistral fait que ils vont convaincre les investisseurs des prochains rounds de quand même rajouter l'argent qu'il faut mettre parce que faire de l'AI générative, ça coûte énormément d'argent, etc. Super. S'ils font ça, c'est génial. Je sais pas si c'est ça qu'ils font, j'en sais rien, je suis pas dans ce board.
Ouais.
Mais c'est rare hein, que
Alors,
ça soit.
tu as mentionné beaucoup, enfin, du coup, le fait que les boards sont de plus en plus gros, surtout en France dès le début. Est-ce que pour toi, cette surcomplexité, ça fait qu'on est un peu surnommé la Bullshit Nation par les Américains, qui sont un peu la Do It Nation? Et qu'est-ce qui fait, du coup, qu'au début d'une boîte, ou enfin, en tout cas, la mentalité de start-up, parce que moi, si tu veux, j'étais un peu dans cette. C'était quoi celle de la French Tech au début, quand, avec mon premier boîte, quand je voulais lever des fonds. Et après, j'ai complètement transitionné, maintenant je suis en bootstrap. J'ai un avis assez tranché, je pense, sur la French Tech et ce qu'ils font. Mais je pense que la French Tech, c'est un frein aujourd'hui au fait qu'on n'a pas encore de réussite comme aux US, en tout cas de la vitesse grand V, ou même qu'on peut voir ailleurs, comme des boîtes comme Deel, qui en 5 ans va 12 milliards, ou ce genre de choses. Est-ce que c'est cette mentalité qui nous freine aujourd'hui à avoir des réussites comme Cursor, comme Deel, comme des Lovable, en tout cas en France, ou pas? Ou c'est autre chose dans l'ADN de l'écosystème français?
Ouais, écoute, bon alors, l'exemple Deel, là en ce moment, il est difficile, tu vois, je suis investisseur chez Deel.
Ouais,
Mais
ok.
là, ça se passe,
Ouais, ils ont
on
des
est,
petits problèmes,
voilà,
ouais.
il y a des vrais problèmes. À la limite, là, ce qui est, ils avaient un board, mais je crois que j'ai l'impression que le board, il vérifiait pas trop ce qui se passe. Écoute, les États-Unis et la France, et même l'Europe continentale, c'est deux galaxies qui n'ont rien à voir. Le problème, c'est que les gens qui sont en Europe continentale, ils s'en sont pas rendus compte. Et ils commencent à s'en rendre compte un peu maintenant. C'est pour ça que moi, je te dis, j'ai deux thèses d'investissement complètement différentes quand j'investis en Europe et en France que quand j'investis aux États-Unis. On a résolu avec ce qu'on appelle aujourd'hui la French Tech, mais en fait, on fait de la tech en France depuis bien avant la French Tech et bien avant Macron, puisque tu vois, on a une décacorne de software en France. On a une décacorne française de software. C'est une société française anonyme. Personne n'en parle jamais, ils sont jamais invités à Vivatech, etc. Je vous dis ça, vous me regardez avec des yeux comme ça. Et c'est pourtant, c'est 100% software. Ça s'appelle Dassault System. Ça vaut 50 milliards. Ça rachète à peu près 60 boîtes par an de tech, de software. Personne n'en parle. Ils n'ont pas attendu la French Tech et Macron pour exister. Et on n'a jamais rien construit en France depuis qui arrive au petit doigt de cette boîte-là. D'accord?
Bien sûr.
Et ça a été la seule vraie mafia qu'on a en France, comme la PayPal mafia, c'est la PayPal Dassault Systèmes, Exalead, etc., où il y a plein de fondateurs de boîtes que tu as citées et d'autres, tu vois, Dockers, Datadog, etc., qui sortent de cet écosystème de Dassault Systèmes dont on ne parle jamais, parce qu'il n'y a pas eu de VC. Excusez-les du peu, tu vois. Le rêve de ma vie, ça aurait été d'être angel dans Dassault Systèmes et de rien d'autre, tu vois. Bon. Mais on n'en parle pas parce que, excusez-les du peu, ils ne font pas partie de ce petit écosystème qui sème beaucoup et qui passe beaucoup de temps sur BFM TV, mais qui n'a pas créé beaucoup de valeur sur les 20 dernières années qu'il existe. Il y avait des SICAR en France dans les années 80, ça s'appelle Société d'investissement capital risque, qui investissait dans de la tech, etc. Et l'autre chose, c'est qu'on parle de la French Tech, en fait, on parle de digital, mais ce qui marche le mieux dans la tech française, c'est la biotech. Mais on n'en parle jamais. Et c'est ce qui marche le mieux. Hein. La plus grosse levée de fonds d'un fonds, c'est Sofinnova Partners qui vient de lever 1 milliard 2 d'euros, qui est un multiple de tous ces fonds dont on parle tout le temps. Et quand je dis un multiple, c'est pas loin de 10 fois. D'accord? On n'en parle jamais. Donc en fait, il y a eu une espèce de narrative, comme on dit en anglais, complètement biaisé et marketisé, de du digital français comme étant en fait l'emblème de ce qu'est la nouvelle nation que Macron veut nous donner. Eh bien, c'est faux. Voilà, c'est totalement faux. C'est une fraction, malheureusement, celle qui fonctionne le moins bien de ce qu'il y a. La deep tech en France, on a des plus belles réussites de développement de sociétés de technologie deep en France que de software. Puisqu'en software, on a Dassault Systèmes principalement, mais en deep tech, ben, moi je dis Airbus, c'est une deep tech, hein, équivalent. Hein. Ce qu'on investit en deep tech aujourd'hui, c'est faire des avions à hydrogène. On a fait des avions à autre chose d'abord, Safran, Thales, je sais pas, tu vois, le nucléaire. On peut continuer longtemps, tu vois. Donc ça, c'est un premier point qui est important et on est en train de se prendre un choc de réalité. Ça fait du bien à tout le monde parce que c'est mieux de vivre dans la réalité que de vivre dans le delusion. Voilà. Maintenant, il y a quand même des choses qui sont importantes à mettre en contrebalancement de ça. C'est que on avait un problème culturel au niveau de l'économie française et de la société française que ce mouvement French Tech a très largement contribué à débloquer. Le premier problème, c'était l'entrepreneuriat. Moi, quand j'avais votre âge, être entrepreneur, c'était littéralement la définition que l'on donnait à des gens qui construisaient des immeubles, des bâtiments. Un entrepreneur, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui un constructeur. Voilà. Bouygues était un entrepreneur, non pas parce qu'il avait entrepris sa boîte, c'est parce qu'il faisait des ponts et des routes, etc. Et donc, on avait quand même un problème majeur d'avoir inventé le mot qui est utilisé aux États-Unis, entrepreneur, ça vient de la France, et en fait d'en avoir une définition, mais complètement moyenâgeuse, en fait. Enfin, du 19e siècle. Et on a redonné ces lettres de noblesse à ça et à cette locomotive fondamentale de toute économie. De toute économie. Ça, on a débloqué ce truc-là, fondamental. La deuxième chose qu'on a débloquée, et qui est aussi une question de mindset autant qu'une question pratique, c'est de mettre de l'argent à disposition des entrepreneurs pour essayer des choses. Et aujourd'hui, on a une capacité de financement early stage, toutes sortes de choses. Parce qu'on parle beaucoup de la tech de nouveau et tout, mais si tu veux, moi, par exemple, avec pas mal de gens avec qui investissent avec moi, on a fait, à l'époque où les taux d'intérêt étaient bas, on a fait une quinzaine de projets de ce qu'on appelle la mezzanine immobilière. C'est-à-dire qu'on finançait des jeunes entrepreneurs immobiliers, des gens qui avaient pas forcément, qui n'étaient pas bancables par les banques tout de suite pour leur donner des prêts pour acheter ce qu'ils voulaient faire. Des fois, ils rachetaient, tu vois, des bâtiments pour faire des spas, pour faire des boutiques hôtels, pour faire des maisons de retraite, pour faire des immeubles, pour faire des résidences étudiantes, des choses comme ça. Mais c'était des jeunes entrepreneurs, au sens qu'ils n'avaient pas de track record et tout, ils ne trouvaient pas l'argent. Et nous, on a financé les 9-12 premiers mois avant que les banques classiques reprennent le relais et puis les financent avec de la dette pour, tu vois, faire leurs travaux, commercialiser leurs trucs et tout. On n'aurait pas pu le faire il y a 20 ans. Parce que ça fait partie de cette mouvance très positive de débloquer l'input. Parce que pour faire des entreprises, il faut des entrepreneurs et il faut qu'ils aient des moyens. C'est, tu vois, c'est, je viens de dire un truc qui est une évidence, mais qu'on a oublié pendant de longues décennies. Alors ça, on a
Par rapport
développé
au
ça.
bootstrap,
Oui, mais
est-ce que...
Bootstrap, c'est, alors que j'adore Bootstrap, hein, on peut en parler. Moi, je célèbre les bootstrappeurs à pieds joints sur une table. La majorité des grandes boîtes du monde a été faite Bootstrap. Hein,
Est-ce pour ça?
Mais malgré tout, il faut l'envie d'entreprendre. Et on a quand même beaucoup plus de bootstrap depuis 20 ans qu'on en avait dans les 20 années précédentes, tu vois. Et il faut l'envie d'entreprendre parce que entreprendre, c'était super mal vu, mais enfin, chez toi, ta famille, tes parents, ton environnement social et tout, enfin, tu voulais être un entrepreneur à moins d'être fils d'eux, t'es d'entrepreneur, pas fils de quelqu'un de riche, t'avais perdu la boule, en fait. T'étais quelqu'un de.
Encore un peu.
Ça,
Encore un
oui,
peu le cas quand t'as des parents qui sont un médecin, un avocat, enfin.
c'est vrai, mais
Là,
c'est
ça, c'est
plus
difficile.
facile. Tu as plus de
Ouais.
soutien social en tant qu'entrepreneur, avec ou sans eux. Tu te trouves une autre famille qui te soutient plus facilement aujourd'hui. Et c'est fondamental. C'est dans le monde du business, il n'y a pas de job plus dur que d'être entrepreneur. J'ai vu à peu près tous les jobs qu'il y a dans le monde du business. Tu vois, en tant que métier, si tu veux. Ça arrive que dans une énorme boîte, tu te trouves dans une situation abominable et tout. Mais en tant que métier, si tu veux, en tant que voie de vie dans le boulot business, hein, de nouveau, je connais rien d'aussi dur. Rien.
Mmh.
Mais not even close, en fait. Et la première chose quand tu vas te lancer dans quelque chose qui est tellement dur comme ça, c'est d'avoir, tu vois, d'être soutenu, en fait. Et si t'es pas soutenu que toi, c'est très dur. Donc on a débloqué ces problèmes-là, pour revenir à ce qu'on disait. Le truc qu'on n'a pas débloqué et qui a rien à voir avec les entrepreneurs, qui a rien à voir avec les VC, qui a rien à voir avec tout ce monde-là, c'est l'exit. Parce que moi, je dis aux entrepreneurs, ce que je me suis dit à moi-même, c'est que tu montes une boîte, en fait. Tu recrutes des gens, tu crées un produit, tu te bats, tu changes, tu itères, tu changes à droite, tu vas à gauche, tu essaies de trouver la magie et tout. Mais tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui se pointe un jour en te disant, tiens, voilà de l'argent, je vais racheter toute ta boîte et que ça rend tout le monde content, t'as pas monté une boîte. Tu avais un projet entrepreneurial. Cet événement-là, ce que j'appelle la finish line, et tu peux rester dedans après ta boîte, hein. Tu peux IPO, par exemple, putain. C'est-à-dire quand tu as passé cette finish line de ça y est, l'entrepreneuriat c'est fini et maintenant tu es une entreprise qui roule. Tu vois. On a quasiment personne qui passe la finish line. Enfin, on a plein de gens qui passent la finish line, mais dans des proportions complètement décalées par rapport à la quantité d'input qu'on injecte. Donc, énormément d'input, énormément d'efforts, d'énergie dépensée au milieu, output, très peu. Alors, ça, on parle. On parle je parle en France, hein, mais c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Italie, c'est vrai en Angleterre, c'est un peu moins vrai c'est un peu moins vrai en Angleterre, pardon. Je dis c'est vrai en Italie, en Espagne, etc. C'est moins vrai en Angleterre, c'est un peu moins vrai dans les pays nordiques et c'est beaucoup moins vrai en Israël, mais ça fait pas partie de l'Europe. Mais ça, c'est par rapport aux exits. Mais il n'y a pas que les exits dans la vie. C'est-à-dire que si tu mets autant d'argent, si tu fais un effort national pour créer une industrie, ce qu'on a réussi à faire, bah, tu essayes de voir quelles sont les retombées de cette industrie. Au niveau national. Je ne parle pas que la France, de nouveau, prend l'Allemagne, prend ce que tu veux, tu vois, l'Italie, la Suisse, même l'Angleterre à un certain niveau. Combien de points de PIB ont été rajoutés par les dizaines, centaines de milliards qui ont été mis dans la French Tech? Moi, j'arrive à en voir zéro pour l'instant. Tu vois, j'ai demandé à plein de gens de me donner les chiffres des économistes et tout. De toute façon, la France a une croissance de 1,5%. Donc, pour aller trouver un point là-dedans qui est dû, tu perds ton temps, quoi. Statistiquement, tu perds ton temps. Combien de nouveaux emplois de gens qui n'auraient pas trouvé un autre job si ça n'existait pas ont été créés? C'est très difficile parce qu'on sait combien d'emplois sont créés par une startup. Mais à chaque fois, moi, je dis, quand je regarde les gens qui sont recrutés dans les startups où j'ai investi, ce n'est pas des gens que j'ai l'impression qu'il y avait une vraie chance d'être au chômage, tu vois, à la base. Tu vois? Des garçons comme vous, des filles comme vous, qui ont fait de super études et tout, qui sont employables. Peut-être qu'ils n'ont pas envie d'aller dans les grandes boîtes, mais s'ils devaient, ils pourraient. Combien de valeur on a créé en bourse? Zéro. Combien de, je sais pas, combien de renforts de notre souveraineté nationale ou continentale on a gagné grâce à la tech qu'on a faite? Zéro. Tu vois, enfin, quand je dis zéro, c'est pour dire que c'est quasiment rien. Et donc, en fait, énormément, on a débloqué l'input, tu vois, on a ouvert les robinets, donc l'eau coule à flot à mort. Super, parce qu'on avait besoin d'eau, parce que tu peux pas faire grandir les fleurs sans un peu de flotte. Mais des bouquets de fleurs, tu vois, qui sont dans des beaux endroits, bah, pas des tonnes, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut faire les choses différemment en Europe. Et l'Europe est en train de se réveiller, heureusement, de bien des manières, pour comprendre bah, il est temps de.
Bon, non, c'est vrai, il faut qu'on se réveille. Enfin, je vois vraiment, tu vois, en étant aux États-Unis, la différence massive entre la rapidité, par rapport à la rapidité par rapport à. Par rapport à tout ce qui se fait aux États-Unis, la rapidité des choses, la facilité de lever de l'argent, c'est beaucoup plus facile. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de traction ici, très rapidement. Mais juste, je voulais te poser une question pour revenir sur ton parcours d'investisseur. Comment toi, tu évalues une startup? C'est quoi ton playbook que tu suis pour évaluer une startup par rapport, par exemple, à l'équipe? Par rapport à l'idée, par exemple, comment tu fais la différence entre une bonne et une mauvaise idée, et aussi comment tu trouves des bonnes opportunités d'investissement, que ce soit aux États-Unis ou en France.
Mais voilà, juste pour revenir maintenant sur ton parcours d'investisseur, je voulais te demander, est-ce que tu peux partager à nos auditeurs quel est ton playbook pour évaluer une startup? Voilà. Qu'est-ce que tu regardes en premier? Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est l'idée? Et aussi, comment tu trouves des bonnes opportunités d'investissement, que ce soit aux États-Unis et en Europe?
Il y a plein de questions dans ta question. Donc, comment je trouve les opportunités d'investissement? Moi, j'en reçois plein, tu vois, j'en reçois tous les jours. Je sais pas, 10 par jour. Ça vient de partout, email, LinkedIn, mon mail est public. Quand tu as investi dans des boîtes, les gens finissent par savoir, ils font des recherches. Tu vois, j'ai été dans des classements à une certaine époque, machin. Donc, ça vient, ça vient. Et puis moi, après, je cours derrière certains sujets qui me plaisent. Tu vois, je contacte des gens, je fais des recherches, je contacte des gens dans les écoles. Voilà, je parle avec des VCs. Des VCs, des fois, c'est un peu tôt pour eux, ils m'envoient les dossiers. Inversement, ils savent que moi, quand je pense que la boîte va bien, je leur envoie, etc. Je suis LP dans des fonds aux États-Unis. Je suis LP dans un fonds comme Sequoia, qui est possiblement le meilleur fonds qui ait jamais existé, tu vois. Et donc, ben, du coup, voilà, je reçois des choses. Donc, ça, c'est un peu comment je reçois. Tu vois, je fais des podcasts avec vous, j'écris des choses, j'essaye d'animer, tu vois, ma marque, entre guillemets. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui savent que je suis prêt à faire des choses assez différentes. Par exemple, moi, j'ai commencé, quand j'investissais dans des choses qui n'étaient pas de la tech. Et ce qui était inconcevable au début, parce que dans la French Tech, par définition, il y a le mot tech dedans. Moi, j'ai investi dans du parfum, par exemple. Tu vois, j'ai investi dans la protéine animale, j'ai investi dans des boîtes comme ça. Et donc, je suis prêt à regarder les choses qui ne sont généralement pas regardées par la majorité. Donc, voilà. Donc, comment vient le deal flow? Ensuite, écoute, tu sais, en fait, tous les investisseurs vont te raconter une histoire à eux très particulière, de leur thèse extraordinaire, complètement différente et tout, mais c'est du bullshit, en fait. C'est du bullshit. Il y a deux investisseurs. Il y a des investisseurs qui, pour une raison X ou Y, le retour sur l'argent qu'ils investissent n'est pas très important. Par exemple, il y a, tu vois, des ex-fondateurs qui ont fait des belles sorties et qui give back. Quand tu give back, c'est de la donation, tu es content de gagner de l'argent, mais ce n'est pas le truc. Et donc, tu investis dans les trucs qui te font kiffer, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qui me fait kiffer? C'est difficile à décrire, tu vois. Qu'est-ce qui te fait kiffer, toi? Tu rencontres des gens, ils te font kiffer, tu vois, une idée te fait kiffer, la façon dont ils abordent le problème te fait kiffer et tout. Bon, ils investissent. Il y en a beaucoup plus aux États-Unis des gens comme ça qu'en France ou en Europe continentale, parce qu'il y a beaucoup plus, il y a beaucoup moins en Europe continentale de gens qui ont fait des super exits. Aux États-Unis, il y a beaucoup de ces gens-là. Tu vois, ça les fait kiffer, ils voient le truc, ils disent, ah, l'idée, elle est chouette, comment ils approchent le truc, c'est cool, j'aime bien le gars, je vais lui parler, tu vois, une fois tous les 6 mois, tous les ans. Ça me fait kiffer, quoi, c'est tout. Voilà, tiens, 50 000 dollars, 100 000 dollars, 25 000 dollars, chacun ses moyens. 5 000 dollars, 10 000 dollars. Mais en fait, voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Okay? Dans le fond. Après, si tu demandes de post-rationaliser pourquoi, ils vont te raconter une histoire incroyable et tout. Et tout. Mais c'est pas vrai. C'était un kiff. Et si c'est pas un kiff, ils font pas, terminé. Parce qu'ils font ça comme si, tu vois, ils se payent une super vacances avec quelqu'un, quoi, pendant 10 ans. Ensuite, il y a les autres genres d'investisseurs qui sont des investisseurs professionnels ou des investisseurs qui aimeraient bien que ça leur apporte de l'argent, tu vois, c'est-à-dire au sens littéral du terme. C'est pour ça que l'autre s'appelle plutôt angel, en fait. Parce que angel, en fait, c'est une logique, spirituelle, littéralement, tu vois, c'est quasiment une religion. Donc, et c'est pour ça qu'aux États-Unis, quand tu es labellisé business angel, t'es pas trop censé être quelqu'un qui fait des maths ou espère récupérer de l'argent. Parce que la logique intrinsèque même du mot, c'est que t'es angélique. Et puis il y en a d'autres pour qui gagner de l'argent avec les investisseurs, c'est important. Je fais partie de ces gens-là. Mais moi, je pense qu'en Europe, c'est important et c'est simple, parce que c'est la majorité d'entre nous. C'est la majorité de ce qu'il y a, en fait. Voilà. Alors, moi, je comprends que les fondateurs préfèrent avoir des gens qui leur donnent 100 000 balles sans poser de questions, tu vois. Moi, fondateur, quand j'étais fondateur, je préférais ces gens-là. Ils me donnent de l'argent, ils me posent jamais de questions. Et puis le jour où ça va pas, tu leur dis, je suis désolé, je ferme la boîte. Ils disent, non, mais c'était super, c'est trop cool, tout se passe, ça recommencera, mais on avance à autre chose. C'est mieux d'avoir que des gens comme ça. Bon. C'est pas donné à partout et à tout le monde en Europe et en France, c'est pas le cas. Donc, si tu investis de l'argent en espérant avoir un retour sur investissement, la question est très simple. C'est est-ce que ce truc que j'ai en face de moi, quand je dis ce truc, c'est cet ensemble, tu vois, fondateur, idée, marché, etc. Est-ce que ça, là, si je leur file 10, ils vont me rendre 100? Est-ce que j'y crois, ça? J'y crois combien, tu vois, sur une échelle de pas du tout à, ouais, à fond. Sachant qu'on se trompe tout le temps. À la fois, on se trompe tout le temps parce qu'on refuse d'investir dans des trucs qui finissent par être géniaux. J'en ai plein. Et par ailleurs, on investit dans plein de trucs qui finissent par se casser la figure. Donc, j'en ai plein aussi, tu vois.
Mais c'est
Donc,
quoi la différence entre y croire et en parallèle faire tes recherches pour voir si c'est concret, s'il y a du potentiel?
tu sais, on essaie de se raccrocher à des choses pour rationaliser la décision. D'accord? Donc, les choses auxquelles on se raccorde. Moi, ma thèse, c'est la même que tout le monde. Après, tu changes les qualificatifs. Je veux investir dans des bip fondateurs. Donc, tu peux mettre géniaux, incroyables, courageux, intelligents, distinctifs, extraordinaires. Enfin, c'est ce que font tous les mecs. Je veux investir dans des bip fondateurs qui construisent des bip entreprises. Tu peux mettre légendaires, extraordinaires, distinctifs, etc. Tout le monde fait la même chose. D'accord? Bon. Après, tu décomposes le truc. Évidemment, il y a des fondateurs où tu dis, ils ont. Enfin, c'est hyper convaincant le bagage qu'ils ont, la vivacité, l'énergie, l'histoire. C'est vachement plus convaincant que eux, ils ont plus de chances que les autres à me rendre sens si j'en fais 10. Et puis il y en a, non. Il y en a où tu te dis, les mecs sont incroyables et tout, ou les filles sont incroyables, mais ils n'ont rien à voir avec ce truc qu'ils veulent faire et ils vont finir par s'enlacer au bout de 2 ans, ça va les emmerder et ils vont passer à autre chose. Et donc, bah non, parce que comme une boîte, ça met 10 ans, faut qu'il y ait une, tu vois, faut qu'il y ait ce qu'on appelle une. The founder needs to be authentic to the problem.
C'est quoi les questions que tu poses pour capter si le founder authentic to le problème ou pas?
Moi, je pose 5 pourquoi. Quand c'est la première fois que je rencontre quelqu'un et que je n'ai pas eu de deck avant, je pose 5 pourquoi. J'y. Pourquoi ça? Pourquoi cette chose que tu es en train de construire, elle a besoin d'exister dans le monde? Pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi vous? Pourquoi vous êtes les meilleures personnes qui existent pour faire que ça existe dans le monde? Pourquoi c'est grand? Pas combien c'est grand, parce que tout le monde te sort des chiffres avec des boules de sam de tam et tout, qui veulent rien dire, qui sont généralement à la gonflette aux amphétamines. Moi, je dis pourquoi c'est grand? Explique-moi pourquoi ce truc-là, ça va être grand. Pourquoi maintenant? Et pourquoi moi? Tu vois, ça prend. Quand les fondateurs sont bons, ça va être synthétique et ont des réponses qui sont des sniper shots. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de me sortir 12 rafales de cartouches pour répondre à chaque pourquoi, ce qui est souvent le cas, malheureusement. En 30 minutes, je sais. Tu vois? Le truc, c'est qu'il faut d'abord être passé par la case deck. Alors moi, j'en profite de votre podcast pour ceux qui le regardent. Si vous m'envoyez pas de deck, c'est quasiment impossible que je vous réponde. Aussi, je vous connais déjà d'avant, quoi. Et envoyez votre deck à tous les investisseurs. Perdez pas de temps. Arrêtez le mail ou est-ce que je peux t'envoyer mon deck? T'as fait perdre 2 mails à tout le monde. Envoie ton deck. La
C'est quoi un
moyenne
bon
de
deck?
le deck, c'est la présentation de ta
Non,
startup.
je sais, mais c'est quoi un bon deck pour toi? Il
Qu'est-ce qui
contient combien de slides et il
constitue
contient quoi exactement?
Bah déjà, le bon deck, il répond aux 5 pourquoi que je viens de te donner, enfin les 4 premiers en tout cas.
Ok.
Le bon deck, il fait 17 pages, 20 pages max. Le bon deck, il est agréable à lire. On le feuillette généralement sur un iPhone. Et on met en moyenne 2 minutes 30 pour regarder un deck. Donc, il faut que tu construises un deck qui fonctionne avec ton audience. Et ton audience, c'est ça. Tu vois? Donc après, si tu veux faire complètement différent, prends des risques, mais ça sert à rien de perdre ton temps avec ça, parce que on ne te demande pas d'être génial en deck, on te demande d'être génial avec ce que tu vas construire. Tu vois? Mais par contre, si ton deck est mal foutu, on a des vrais doutes de si tu vas réussir à bien construire ce que tu dis à construire. Tu vois? Par exemple, le nombre de personnes que je vois qui veulent faire une nouvelle marque sur Internet avec un store Shopify pour vendre des choses qui sont censées être glamour et tout, et leur deck est horrible. Ben, jamais je vais investir chez toi, tu vois, c'est parce que je suis incapable de croire que tu vas réussir à vendre de la cosmétique si tu m'envoies un deck qui me fait mal aux yeux dès la première page. Un deck, c'est des pages, le fond est blanc. Tu vois, sauf très rarement que tu fasses du gaming et que tu n'as que des vidéos dans tes pages avec des fonds plutôt colorés, etc. Un fond, c'est blanc. Voilà. Le nombre de mots dans ta page doit être extraordinairement limité. Il faut que ça soit, chaque page, c'est une claque dans la gueule. Et si t'as pas fait un peu de recherche sur Internet avec les 300 000 exemples de très bons decks qui existent pour t'inspirer du tien et que le tien vient à la façon bureaucratique tu vois, de la majorité des leveurs de fonds qui s'inspirent du private equity, t'as pas beaucoup de chance qu'on te file de l'argent parce que ça ressemble à un truc corporate, vieux. Tu vois, c'est des jeunes qui sont déjà vieux dans leur tête, quoi. Ça se voit dans le deck. Un deck, c'est 12 claques dans la gueule. Voilà, pour faire simple. 12 claques dans la gueule. Je suis sonné, quoi. C'est-à-dire que je suis à la 12e page et je suis là. Oh, j'ai besoin de parler avec cette personne-là pour qu'elle me ranime, quoi, parce qu'elle m'a éclaté. Tu vois. Je ne peux pas ne pas rencontrer cette personne. Même si je n'investisse pas, il faut que je connaisse la personne qui m'a mis KO, quoi. C'est important dans ma vie, tu comprends? Et c'est ça que tu veux. Parce que tu envoies un deck juste pour une chose, c'est pour avoir un meeting. Ce n'est pas pour me raconter toute l'histoire de la chimie quantique, enfin de la physique quantique, etc. Tu m'envoies un deck ou un investisseur pour obtenir une réunion. Point à la ligne. Rien de plus, rien de moins. Ce que tu veux faire avec un deck, c'est ça. Tu fais un deck pour ça, tu fais un mail pour ça. Tout ce que tu fais qui n'est pas pour ça, c'est des chances de ne pas obtenir ta réunion. Et l'autre chose, c'est que en France en particulier, qu'est-ce que les mails sont alambiqués avec des formules de politesse de 1842. Il y a du Victor Hugo dans les mails, c'est un truc de fou. Les phrases sont hyper longues, c'est de la littérature. Tous les chiffres, tous les adjectifs peuvent être remplacés par des chiffres ou n'ont pas besoin d'adjectifs. Faut que ça se claque dans la gueule. Faut que je vois le mail. Wow. Parce que j'envoie plein, tu vois. Non, non, non. Et là, boum. Ah, non, je peux pas. Faut que je parle avec ces gens-là. C'est pas possible. Faut que je parle avec
À
eux.
l'américaine, quoi.
Mais ça marche comme ça aussi en France parce que maintenant,
Ouais.
avant, on recevait un dossier par semaine parce que personne ne voulait entreprendre. On courait derrière les gens. On essayait de les sortir des boîtes. On allait voir des gens chez Orange. On lui disait, non, mais tu fais des trucs de ouf. Sors de là-bas. Fais une boîte. Ah non, mais j'ai un job, machin. C'est ça qu'on faisait, nous, les Angels, au début, tu vois. On allait voir des mecs qui étaient pas bancables, ils pouvaient pas aller travailler dans l'audit et dans le conseil, et puis ils avaient fait Epitech, et on leur disait, mais tu sais coder, mais code un truc, t'as une putain d'idée, t'as passé du temps sur le Minitel, t'es gamer et tout, arrête d'essayer de gagner un salaire dans une boîte où tu te fais chier, fais une boîte. C'est ça qu'on faisait. Aujourd'hui, c'est l'inverse, on en reçoit plein, 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 on est obligé de trier. Tant mieux, ça veut dire qu'on a résolu le premier problème de nouveau. Mais comme on doit trier, bah, on fait comme des gens qui font du triage, c'est boum, 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 bah. Oh, attends, c'est qui ça? Tu vois, c'est comme ça que ça marche.
Magnifique.
Mes journées sont comme ça. C'est top, hein? Moi, j'adore. Et quand je me prends une claque, mais je suis là, mais il faut que je te parle, quoi.
Tu disais qu'à l'époque, c'était dur de retrouver des entrepreneurs dans les. Enfin, il fallait les chercher toi-même. Mais en France, on est quand même un des seuls pays où tu as le chômage. Quand tu quittes ton job, tu continues à être payé alors qu'aux US, tu n'es pas du tout payé. Enfin, quitte ton job, tu es dans la merde. Qu'est-ce qui fait du coup qu'aux US, tu es tant de mecs qui veulent entreprendre et faire des gros business alors qu'en France, on est biberonné et on a quand même les gens sont quand même beaucoup plus fainéants et moins enclins à faire de choses beaucoup plus grandes et scalables globalement mondiales.
Ah, déjà, tu as répondu à ta propre question. Alors maintenant, je ne sais pas si moi je vais être d'accord avec le fait que les gens sont plus feignants, mais écoute, mais c'est des ADN complètement différents. Complètement différents. Les Français ne peuvent pas comprendre ça tant qu'ils n'ont pas vécu aux États-Unis longtemps, mais qu'ils ont vécu à l'américaine aux États-Unis. Parce que là, le nombre de Français qui vivent à la française aux États-Unis, il y en a plein aussi. Hein. Ils ne voient pas ce que c'est l'Amérique. Mais très bien, enfin, chacun vit comme il veut d'ailleurs.
Expat,
Oui, ils parlent en français, leurs copains sont tous français, leurs enfants vont à l'école française, ils ont un anglais cassé au bout de 15 ans, malgré tout. Puis, voilà, mais pas de problème. Je veux dire, s'ils sont heureux comme ça, chacun cherche son chat, comme dirait l'autre. Mais c'est deux ADN qui n'ont rien à voir. L'Europe continentale, c'est une terre d'héritage de royauté. D'accord? Nous, les plus grands hommes de France restent dans la liste dans la culture générale française, Charlemagne, Louis XIV, Napoléon et De Gaulle. OK? C'est pas Elon Musk, c'est pas Founding Fathers, c'est pas, tu vois. Donc c'est tout, c'est pas la même chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut pas investir de la même manière d'un côté et de l'autre, c'est pas le même monde. Tu vois, si je me mettais à investir en Afrique, je vais pas investir avec les mêmes règles qu'à Paris non plus, c'est pas le même monde, c'est tout. Et le contexte, c'est important. Et le contexte culturel et d'ADN, c'est important. C'est juste des ADN qui n'ont rien à voir. Expliquer l'ADN américain aux Français, ça énerve les Français. Ça a de le faire ici.
Qu'est-ce
Mais
qui...
il faudrait pas, ah pardon, excuse-moi, j'entends, est-ce qu'il faudrait pas justement changer cet ADN si on veut, si on veut rattraper les États-Unis dans le futur? Est-ce que c'est pas, enfin, il n'y a pas une question identitaire, il faut pas qu'on enfin, qu'on casse un peu ces codes et qu'on commence à adopter un mindset américain si on veut aller plus rapidement et on veut catch up avec les innovations américaines.
Bien sûr qu'il faudrait. Mais même si on a inventé la technologie CRISPR, changer l'ADN, c'est la chose la plus difficile qui existe dans le monde. C'est ce qui met le plus de temps.
Ouais.
Et puis, les Européens sont biberonnés à coup de protection. Le protectionnisme, c'est quoi? C'est défendre, c'est de considérer que tu es fragile. Plus tu rajoutes de protection, c'est parce que tu penses que tu es fragile. Parce que les gens qui ne sont pas fragiles, on ne les protège pas. On les lâche, on les laisse aller faire ce qu'ils ont à faire. Donc, déjà, il y a une conviction qui est inscrite dans l'ADN de fragilité. Le principe de base, c'est qu'on est fragile et qu'il faut qu'on soit protégé pour pouvoir réussir. Donc déjà, ça, bah, c'est antinomique avec l'entrepreneuriat, l'innovation, la conquête, etc. La deuxième chose, c'est qu'on est biberonné, comme vous l'avez dit tout à l'heure, depuis tout petit. Or, le principe de réussir dans l'entrepreneuriat, c'est que tu n'as pas le choix. Il n'y a aucune autre alternative dans ta vie. Il n'y a aucun filet de sécurité. Il n'y a aucun moyen de se rattraper. Il faut que tu réussisses. Et la meilleure chance, ça augmente tes chances de devoir réussir si tu n'as pas le choix que de réussir. Tu vois, tu n'as pas le choix. Les États-Unis, c'est, il n'y a pas de plafond, mais il n'y a pas de plancher non plus. Il n'y a pas de filet de sécurité. Si ce que tu essayes de faire, c'est avec un filet de sécurité, bah, c'est confort et tout, ça y est, t'es antinomique. Donc, on est protégé, on est biberonné. Et puis, par ailleurs, on a accumulé un certain nombre de problèmes, malheureusement, qui sont très profonds, comme le niveau d'endettement, la non-productivité, la perte des emplois industriels. Bref, je ne vais pas vous refaire le rapport de Draghi. Mais moi, le truc qui m'a le plus marqué récemment, c'était d'ailleurs dans le discours de Draghi, je crois, du fameux rapport, c'est qu'il citait un politicien français qui disait: le problème que l'on a, je vous le fais en gros comme ça, parce que je ne me souviens pas la citation exacte, mais c'est en gros comme ça. Le problème que l'on a, c'est qu'on n'est pas là pour aider les nouveaux. On fait des règles et tout ce que l'on peut pour protéger les anciens, pour qu'ils se maintiennent, les anciennes entreprises. Le mec qui a dit ça, c'est Léon Blum, mais c'était en 1936. Et moi, mais ça, voilà, claque dans la gueule, tu vois. Ah, claque dans la gueule. Oh, 1936, c'est déjà cette histoire-là à l'époque. C'est
Ouais,
dur.
90 ans.
C'est dur à défaire, mais c'est une question d'ADN. L'ADN européen ne deviendra pas l'ADN américain, et il n'a peut-être pas besoin de le devenir. La différence, c'est bien aussi, ils font des choses différentes. Mais là, le problème, c'est qu'on arrive, on re-rentre dans un monde où la notion de puissance reprend de l'importance fondamentale. Et du coup, bah, quand on a célébré et protégé la fragilité pendant autant de temps, bah, on a du mal. Franchement, c'est dur, ça fait mal. Et là, on est en train de s'en prendre la figure. Mais c'est un bon réveil, je pense, tu vois. Le fait que l'Europe va réinvestir dans le militaire, extraordinaire, parce que l'industrie militaire est une force d'innovation absolument gigantesque dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, Silicon Valley, ça a commencé avec l'armée, hein. Internet, ça a commencé avec l'armée américaine. Donc, tant mieux, parce que ça a bougé les choses. La réalisation de la dépendance et de la perte de souveraineté vis-à-vis de technologies comme l'IA. Très bon réveil, super. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mais il faut arrêter de. Moi, ce que je vous invite à ne pas faire, c'est le yaka faucon par rapport à l'Europe pour que ça devienne les États-Unis, parce que vous perdez votre temps. Un, le seul moyen de changer l'Europe, c'est d'y aller et de la changer. Donc, c'est Montesquieu qui disait ça. Si, pour changer les gens, il faut être parmi eux. Et tous les entrepreneurs de France, d'Allemagne, etc., chacun apporte son petit coup de canif pour faire une nouvelle sculpture de la société dans laquelle elle ou il vit. Et ce qu'il faut espérer, c'est que tous ces petits coups de canif, ça va donner une nouvelle sculpture. C'est très difficile de faire des grands coups de burin, ou d'y aller à la tronçonneuse. C'est le rêve de toute une génération. Le seul moyen de le faire, c'est pas de se plaindre, c'est d'aller le faire. Donc, si vous restez aux États-Unis en vous plaignant de l'Europe, vous êtes schizophrène quelque part. Soit vous êtes États-Unis, montez des boîtes États-Unis à l'américaine, oubliez l'Europe et faites votre vie. Si ce qui vous dérange dans le fond de votre cœur, parce que vous venez de là-bas, c'est que l'Europe, ça ne va pas, il faut aller en Europe pour la changer, tu vois. Moi, je ne prétends pas changer l'Europe. Je suis aux États-Unis, je constate, je fais en fonction de ce que je constate. Il n'y a pas d'exit en Europe. Les boîtes en France, ça se vend. La valeur médiane, c'est entre entre 17 et 25 millions historiquement. J'essaie d'investir dans des boîtes qui peuvent sortir dans ces parages-là, que si elles sortent à 50, tout le monde est content. Il n'y a pas d'IPO, c'est pas moi qui vais changer ça. Et je ne suis pas capable de le changer, je n'ai pas décidé de le changer, ça ne relève pas de mes moyens. Il y a des
On
gens
n'a pas
qui
de
réussissent.
liquidité.
J'espère qu'ils réussissent.
Ça manque de liquidité de toute façon pour faire des IPO en Europe. On n'a pas la liquidité que sur Nasdaq, enfin, qu'il y a aux US sur la bourse de New York. Même à Londres, ils n'ont pas la liquidité.
Oui, mais à Londres, les
C'est pour
boîtes
ça que.
anglaises n'arrivent plus à faire des IPO aux États-Unis. Mais ce n'est pas que l'IPO, c'est qu'il n'y a pas de. Les corporates français, il n'y a pas de big tech européenne, à part SAP, Dassault Systèmes, maintenant Spotify.
Ouais.
Oh, j'en oublie une ou deux, mais quand on n'a que trois pour acheter et qu'ils ne rachètent pas grand-chose. Il n'y a pas de big tech. Les acquisitions par les big tech sont fondamentales pour faire tourner les exits. Ensuite, les corporates européens sont à l'ancienne. Ils n'arrivent même pas à acheter du service de SaaS correctement. Donc, acheter des boîtes de SaaS, pardon, très difficile pour eux. On n'a pas l'écosystème d'exit. On n'a pas l'énergie. On n'a pas la rotativité. On n'a pas l'esprit que ben, il faut vendre et passer à autre chose. C'est pas la même chose. On l'a pas ça pour la tech. Donc il faut faire en fonction. Et ça fait longtemps que tout le monde essaye de changer ça. Donc ça changera peut-être un jour. Peut-être que maintenant avec ce qui se passe avec Trump et le réveil européen et la réalisation de l'essai de souveraineté, peut-être qu'on va créer des fonds d'exit. Comme on a commencé à créer un peu des fonds de secondaire, ce qui est un peu ça finalement. Mais bon, oui, si tu cherches de la vitesse en Europe, tu vas pas la trouver.
Petite question, enfin, il faut qu'on avance l'heure tourne. On va pas prendre trop de temps. Donc, on aimerait revenir sur l'IA. Donc, aujourd'hui, bah, l'IA, c'est le nouvel Internet, on va dire. Enfin, c'est même plus grand encore. C'est quoi ta perspective sur l'IA aujourd'hui? Et est-ce que tu penses que les métriques qu'on voit en tant qu'investisseur, toi, est-ce que tu vois aux US les métriques de Cursor, des Mecor, des Lovable, est-ce que tu penses que ça devient la norme pour les startups qui sont dans l'IA? Et à quel point ça va impacter les autres acteurs qui veulent relever des fonds et qui veulent se lancer aujourd'hui?
Ouais.
D'avoir
Alors
des
moi,
boîtes de 15 personnes sur des valos aussi grosses.
je suis hyper heureux d'être vivant à cette époque de l'histoire de l'humanité. Je trouve que c'est une époque absolument époustouflante, à la fois à cause de l'IA, mais aussi ce qui se passe en biotech, en ingénierie génétique, en neurotech. On est en train de revivre un nouveau boom de la science fondamentale. Et la dernière fois qu'on a eu ça, c'était le fameux congrès de Solvay en 1900. 17, me semble-t-il, on n'a jamais rien fait d'aussi. Et là, on est en train de faire ça et vivre ça, et je trouve ça extraordinaire. J'ai énormément de difficultés à tout comprendre. C'est complexe, c'est techniquement complexe, ça me dépasse souvent. J'ai aussi des difficultés à avoir des convictions. Donc, j'essaie de me rattacher à des choses que je connais, comme toujours, et que j'ai déjà vues, probablement en me trompant de framework analytique. La partie cursor, etc. Enfin, tout ça, c'est just fucking amazing. C'est vraiment, j'ai pas d'autres mots. Je sais pas comment décrire à quel point c'est éblouissant pour moi ce que je vois, ce qui se passe, tu vois. J'utilise tout ce que je peux, de ce dont j'ai besoin. Je pousse mes enfants à l'utiliser. Je pense que l'IA va remplacer une grande partie de l'humanité. Ça ne me stresse absolument pas. Je trouve que c'est l'évolution naturelle de l'espèce. Je pense qu'on va modifier génétiquement une grande partie de l'humanité. Ça ne me stresse absolument pas. Je trouve ça une évolution naturelle de l'espèce. Je trouve que c'est extraordinaire. Ce qui sera encore plus extraordinaire, le dernier truc extraordinaire, c'est qu'on découvre une autre vie dans l'espace avant la fin de ma vie. Je trouverais ça. Alors là, ça aurait été. Enfin, tu vois, c'est merci l'humanité, quoi. Merci mes parents de m'avoir fait vivre à ce moment-là l'histoire de l'humanité, quoi. Je pouvais pas demander plus que ça, tu vois. Incroyable. En revanche, ce que je sais, c'est que j'ai déjà vu deux saisons. J'ai vu la saison .com et la saison 2008 de la tech. J'ai l'impression que je suis en train de voir la troisième saison d'un truc que j'ai un peu vu déjà, je crois. Les agents, ce qu'on appelle les agents aujourd'hui, hein, l'agentique, les agents d'AI, ça ressemble beaucoup à l'apparition des apps mobiles. C'est-à-dire une nouvelle technologie, une plateforme complètement révolutionnaire qui était le mobile. Et là, tout le monde faisait des apps à l'époque. Hein. Moi, je me souviens, je recevais que des dossiers, on fait une app de ceci, une app de ceci, une app de ceci, une app de ceci. À peu près tout le monde a disparu. Les seules apps qui sont restées vraiment, sont assez peu nombreuses finalement qui ont pris de l'importance pour être noticeable à l'échelle d'une économie. D'accord? Et tu es soit des apps qui en fait ont un fondamental qui ne se passe pas dans l'app. Par exemple, Uber, tu as une app pour gérer le truc, mais la réalité du business, ça se passe ailleurs, si tu veux, c'est des voitures, etc. Ou bien
Ouais.
c'était des apps qui étaient
Airbnb.
Airbnb, voilà exactement, et plein d'autres. Ou bien c'était des apps qui étaient le miroir de quelque chose qui se passait sur le web et qui se passe très bien dans un mobile. Par exemple, Facebook, tu vois, Instagram, etc. Bon. La majorité des apps ont disparu. Et pourtant, au début, je me souviens très bien, c'était comme ça, les chiffres étaient incroyables, la quantité de downloads, c'était un truc de fou, les gens subscribent et tout. Il y avait énormément de gens qui essayaient des choses. J'en faisais partie, tu vois, des
Ouais.
trucs qui sortaient, j'essayais tout, je downloadais, mais putain, j'avais des centaines d'apps dans mon téléphone, à chaque fois, je n'avais jamais le temps de tout voir, etc. J'ai un peu l'impression que c'est ce qui se passe d'une certaine proportion. Et donc, pour moi, en tant qu'investisseur, c'est très difficile de savoir trier là-dedans. Tu vois, qu'est-ce qui va devenir vraiment des grandes entreprises qui se sustentent dans le temps? Et qu'est-ce qui est juste, tout le monde est en train d'essayer plein de trucs, donc ça explose de partout, et puis après, ça risque de retomber. Ou peut-être pas, je ne sais pas.
Mais c'est pas un nouveau paradigme avec les applications d'IA? Enfin, est-ce que c'est, tu penses que c'est,
Non, parce que les applications, elles
ouais.
utilisent une technologie fondamentale qui n'est pas à la leur. Tu vois, c'est comme les apps mobiles utilisaient une technologie fondamentale qui était d'abord le téléphone mobile. Avec l'iOS ou Google Play et avec des langages qui n'étaient pas les leurs, et ils utilisaient ça pour faire des agents. Les apps, c'était des agents. Les agents aujourd'hui ne sont pas de l'IA générative généralement, ils utilisent de l'IA. Et on est passé par le SaaS où en fait les gens qui ont gagné le plus d'argent dans le SaaS, c'est Facebook et Google, puisque à peu près la moitié de l'argent des VCs allait dans du marketing chez Facebook et Google. D'accord? Et là, ce qui se passe, c'est qu'une grosse partie de l'argent va chez Facebook et Google encore, parce que tu as plein d'agents qui font la même chose, et donc c'est toujours le même go-to-market. Et une proportion additionnelle d'argent qui n'allait nulle part avant, ou très peu, qui allait dans le cloud, enfin qui allait dans le Google Store, 30% de l'argent allait pour le Google Store. Là
Ouais, chez
maintenant,
OpenAI,
non, ça va chez OpenAI, ou Anthropic, ou Perplexity, ou tu vois, tout ça, ou Mistral, peut-être, je leur souhaite un jour et tout. Et donc, en fait, le modèle reste 70% de ton fric qui va chez d'autres gens, quoi, en fait, tu vois.
c'est vendeur de pelle, quoi.
Alors, mais il y en a qui vont survivre. Mais l'histoire a montré qu'à chaque fois, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont survécu, quoi, tu vois. Et ce n'est pas ceux de la première ronde, parce qu'il y a aussi la question de l'onde de l'innovation. Le cycle de l'innovation, ça va très vite au début, puis après, ça plateau, ça redescend, puis après, ça remonte plus haut, mais plus longtemps. Et moi, ce que je constate, c'est parce que c'est juste historique, chronologique des choses, c'est qu'on est au début, là. Donc forcément, je vois pas pourquoi ça échapperait aux autres. Ah, mais c'est plus incroyable que les autres. L'invention de la pénicilline a fait plus de bien à l'humanité jusqu'à aujourd'hui que l'IA n'a encore fait, tu vois. Donc, enfin, la découverte de la pénicilline, ça peut être inventé. Donc, il n'y a aucune raison que ça y ait. Donc, pour moi, la seule chose que je peux dire, hein, vraiment en plein d'humilité, c'est que je ne sais pas, je ne suis pas sûr de tout comprendre, j'ai du mal à avoir des convictions. Je vois beaucoup de gens qui ont des convictions, ben, je leur souhaite qu'elles soient bonnes. C'est difficile que autant de gens aient des convictions aussi fortes qui sont toutes contradictoires. Il y a quand même quelqu'un là-dedans qui doit avoir raison, quelqu'un qui doit avoir tort, ou peut-être tout le monde a tort. Si tout le monde a raison, c'est rare quand même. Et donc, ma façon de participer à ça, c'est que je suis LP dans des fonds où je pense qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi pour faire les choix. Par exemple, Sequoia. Voilà. Mais il n'en demeure pas moins que j'adore regarder, que j'ai fait une ou deux choses directement. J'ai hâte de voir comment ça va se développer. Tu vois. J'ai hyper hâte. Quand c'est aux États-Unis, quand c'est en France, il n'y a toujours pas d'exit, il n'y aura pas d'exit. Donc, c'est le même problème, sauf que là, ils font encore plus de pognon. Et donc, je ne vois pas du tout comment on rend 10, 100 à qui t'a donné 10, tu vois, je vois pas. Je vois pas. Mais du tout, hein, avec ces montants d'argent là. Enfin,
On peut
alors,
s'en aux US.
moi, je souhaite à tous les fondateurs de la Terre de réussir et que si j'ai dit des choses contraires, qui prouvent que j'ai eu tort. C'est, tu vois, toutes les licornes françaises, que je pense qu'elles ne valent pas ce qu'elles valent pour la très grande majorité d'entre elles, si ce n'est toutes, et qu'elles ne font pas les sorties au valo qui ont été données pour leur argent, sauf des très rares exceptions qui se restent à être démontrées, puisqu'il n'y en a pas eu pour l'instant. Je leur souhaite à toutes que ce que je viens de dire, ça soit pas vrai dans leur vie. L'argent qui a été levé par Mistral, ben, je leur souhaite que les exits vont faire que tout le monde va être très content, dont les fondateurs, et qu'ils ne vont pas se faire plumer à la fin parce qu'ils vont avoir 7% de leur boîte avec des centaines de millions de liquides préf sur leur tête.
Ouais.
Mais c'est difficile de voir des scénarios différents de ça, de là où je suis assis. Mais je suis peut-être pas assis dans la bonne chaise.
Ok, je pense qu'on a un peu fait le tour, on va pas te prendre beaucoup plus de temps. Petite dernière question, est-ce que tu veux te lancer demain, tu lanceras aux US ou en France? Lancer une boîte.
Ça dépend quoi?
Boîte de service. Et SaaS. Enfin, je te donne deux trucs.
Faut pas raisonner comme ça. Je peux pas te dire ça, je peux pas raisonner comme ça. Le contexte importe. Et le fit que tu as avec le contexte importe, fondamental. Et c'est le truc qui, les fondateurs, devraient faire plus attention. Tu vois, c'est la question que je disais tout à l'heure, c'est pourquoi toi, vous êtes les meilleurs pour faire ce truc-là, là où vous le faites. Et ils ne se posent pas la question souvent. Ils ont une idée comme ça a l'air d'être cool, c'est chouette et tout, c'est kiffant, viens, on va faire ça. On est en France, il s'avère qu'on est en France, on le fait en France. Bah, tu peux bouger. Réfléchis, pourquoi est-ce que tu dois rester en France? Je suis aux États-Unis, je veux faire aux États-Unis, pourquoi? Peut-être que le meilleur endroit de le faire, c'est pas ici. Il faut se donner toutes ces chances de réussir parce que c'est tellement dur. Et dans toutes ces chances de réussir, il faut remettre en question ce framework simple et binaire que tu me poses, que je comprends, tu vois. Si je veux faire du generative AI, je le ferai aux États-Unis, c'est certain. Si je voulais faire une marque de fringues de luxe, je la ferai en France. Si je voulais faire de l'aéronautique, je me poserais la question si c'est peut-être en France que je la ferais. Mais moi, je suis français et aux États-Unis, donc je peux jouer un peu des deux côtés, tu vois. J'ai de l'arbitrage. Si je faisais une boîte dans la santé, je la ferais aux États-Unis, tu vois, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend.
Il
Il n'y a pas de.
n'y a pas de raison particulière, quoi. Il n'y a pas de
Non,
règle universelle, quoi.
il n'y a pas de règle universelle. Et
Ouais.
il y a des règles universelles. Travailler smart et dur. Le pipeau de work smart, not hard, c'est du bullshit. Parce que essayer de battre ceux qui work smart and hard en ne faisant que work smart, je vous souhaite du plaisir. Et travailler dur, c'est pas 50 heures par semaine. Travailler dur, c'est plus de 80. Tu montes une boîte, c'est ça que tu fais dans la vie, c'est tout. Si tu veux monter une boîte qui n'a pas vocation à être exponentielle, tu peux peut-être faire différemment. Mais si tu veux laver de l'argent avec des investisseurs, c'est que tu dois faire de l'exponentiel. Et l'exponentialité, c'est pas donné à tout le monde. Et ça se fait pas, même en travaillant jusqu'à, tu vois, je travaille jusqu'à 8 heures du soir, mais que le vendredi, je travaille pas le week-end, je travaille pas les vacances. Il n'y a pas de vacances, pas le week-end, c'est fini. Ça, tu veux faire l'exponentialité, c'est l'exceptionnalité. C'est l'extraordinarité. Et donc, si tu veux être extraordinaire, eh ben, tu peux pas avoir une vie ordinaire. Tu peux pas être quelqu'un d'ordinaire. Tu peux pas penser que tes journées vont être comme les autres. C'est pas possible. C'est incompatible. C'est incompatible. Ça, c'est des règles universelles. Tu montes une boîte, ça va être très dur. C'est universel. C'est très rare les histoires. Les mecs qui montent des boîtes et tout de suite, ça y est, c'est incroyable. C'est le carton et tout. Même les mecs, tu vois, des gens comme les garçons de Sorare qui sont incroyables, où pour eux, ça a explosé très vite et tout. Si tu leur demandes, je pense ça a été dur au début, tu vois. Ça a été dur. Même s'ils ont levé 600 millions, ça a été dur. Tout le monde, ça c'est dur, c'est une règle universelle. La troisième règle universelle, c'est que n'y va pas si t'es pas prêt à souffrir. N'y va pas. Ça va être dur. La probabilité que ta boîte n'allait pas jusqu'au bout, elle est nettement supérieure à celle qui allait jusqu'au bout, mais c'est immensément supérieur, tu vois. Immensément supérieur. C'est comme le mariage. Les gens se marient, ils ne se posent jamais la question, mais tous, ils ont 65% de chances de divorcer, tu vois, mais ils ne se posent pas la question. Ils pensent que eux, forcément, ils sont dans les 35%. Guess what? Ça ne marche pas. Dans les boîtes, c'est pareil. N'y va pas si tu n'es pas prêt à souffrir. N'y va pas si tu n'as pas le feu dans le bide à chaque fois, tous les matins, que tu as une envie de fou de faire ce que tu es en train de faire. Il n'y a rien qui te fait plus kiffer que de ship ce que tu vas ship à tes users. Il n'y a rien qui te fait plus kiffer que tes users qui kiffent ton produit, tu vois. Tu vois, si la première fois où tu as un store Shopify et la première personne qui achète, tu ne te souviens pas de son nom et de son prénom pour le reste de ta vie, t'es pas dans le bon business.
Et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes aujourd'hui qui sont en train de faire leurs études ou qui sont sur le point de finir leurs études, qui ont cette flamme qui ont cette âme d'entrepreneur, qui n'ont pas forcément d'idées, qui savent qu'un jour ou l'autre ils vont créer une boîte? Est-ce que tu leur conseillerais de joindre une start-up? Est-ce que tu leur conseillerais de prendre du temps, par exemple, de prendre 1 mois ou 3 mois ou je ne sais quoi pour réfléchir à une idée? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes?
Non, écoute, moi je pense pas que c'est comme l'amour, je pense pas que ça se décrète. Donc c'est pas tu dis je prends 3 mois, j'ai trouvé une idée. En fait, en France, c'est beaucoup comme ça, et c'est beaucoup pour ça que les boîtes se plantent, c'est que les gens approchent le truc, ils sortent d'école de commerce généralement, parfois d'ingénieur, ils réfléchissent comme des consultants, ils regardent un marché, ils font des analyses, tiens, il y a un gap là-dedans, je vais m'attaquer au gap, je vais faire un business. Mais en fait, ce business, t'es pas amoureux du business, quoi. Et donc, les chances que pendant 10 ans, tu continues de kiffer le business, il faut vraiment que le business cartonne. Le problème, c'est que les business, généralement, ça finit à un moment ou à un autre par cartonner. Là, tu dis pourquoi je me galère? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça pour ces gens-là? Pendant encore 5 ans, je me fais chier, il va falloir que je me fasse diluer encore plein. Il faut que je m'engueule avec mon fondateur, que je sois un moine de sens. Ah là, je peux faire autre chose. C'est pour ça que c'est vachement important qu'il y ait un lien avec l'idée, que ça soit quelque chose qui personnellement t'impacte dans la vie, parce que s'il y a beaucoup plus de chances de te réveiller le matin pour faire face aux galères que tu as, tu vois.
Bien sûr.
Et donc, si tu te donnes 3 mois, je vois pas en quoi, tu vois. Bon. Non, moi ce que je dis c'est, écoute, t'as pas d'idée, pas de problème, elles finiront par venir d'une manière ou d'une autre. Et le meilleur moyen qu'elles viennent, c'est que tu te frottes à la vie. Et le meilleur endroit pour te frotter à la vie, c'est dans une startup si tu veux faire une startup. Mais une vraie quoi, c'est pas aller chez Microsoft, c'est pas une startup, c'est
Bien
pas
sûr.
aller Uber France maintenant, c'est pas un endroit pour ça. Non, va dans des vraies startups, coltine-toi si t'es ingénieur, coltine-toi du code. Et puis tu finiras peut-être par trouver une idée de DevOps, tu vois, tu fais des trucs, tu dis non, mais c'est la façon dont on fait le code, elle n'est pas logique, là, il y a un outil qui manque, je vais faire l'outil. Voilà, plein de boîtes ont été faites comme ça, Docker, Datadog, ça, Dataiku, tout ce que tu veux. Tu fais des sales, et là, tu vois, est-ce que c'est ton kiff dans la vie de tous les jours, te taper 27 noms avant de te taper un oui, et que quand tu as ton oui, tu as oublié les 27 noms tellement tu kiffes, et tu dis, je remets ça demain. C'est ça, t'étais, ouais, bah vas-y, vas-y. Là, t'as traversé un pont que presque personne ne traverse, en fait. Et si tu es de l'autre côté de cette rivière-là, mais tu es tellement du bon côté pour pêcher, vas-y, tu vois. Est-ce que faire tu vois, de taper le customer calls avec les clients qui râlent et tout, et de résoudre leurs problèmes et tout, bah, t'apprends, t'aimes ça, t'aimes l'énergie de ça et tout. Parce qu'il y a plein de ça dans une startup. Donc va dans une vraie startup, tu vois, mets la main dans la pâte, chope-toi des cicatrices, comme on dit scar tissue en anglais, tu vois, il faut avoir des cicatrices, il faut qu'on voit bah, que tu vois, tu cicatrises bien, quoi. Que même ça te donne encore plus envie, en fait. À chaque fois que tu t'en prends une, tu te dis, ah non, mais je vais leur montrer, tu vas voir, ils vont comprendre. Que c'est cet esprit-là, tu vois, et cet esprit-là, le meilleur endroit pour le sentir, c'est dans une start-up.
À quel stade la start-up
Tôt.
a fait l'idée?
Tôt.
Tôt?
Mais ouais. Tu vois, on peut vous raconter toute l'histoire de à quel point l'entrepreneur, c'est. Et puis on a mis les entrepreneurs sur un piédestal, tant mieux d'ailleurs, parce que, un, ils le méritent, et deux, on avait besoin de le faire pour que les gens aient envie de le faire. Mais c'est surtout une galère, en fait. Tu vois, moi j'ai été 2 fois, j'ai investi dans 50 mecs, c'est surtout la majeure partie du temps une galère et de temps en temps des trucs cool. Et donc il faut avoir des gens qui sont des gens qui bourrinent à travers la galère, tu vois. Donc fais pas des détours, c'est pas en allant dans un cabinet de conseil que tu vas savoir si tu vas être quelqu'un tu vois, qui va faire ça, ou être dans une banque d'affaires, c'est dans une start-up, ou à la limite fais la Légion étrangère. Moi, je suis vachement plus intéressé. Moi, je suis plus intéressé d'investir dans un mec ou dans une fille qui n'ont pas des super diplômes, mais qui se sont galérés dans une banlieue de Paris et qui ont trouvé un moyen de gagner des sous parce que leurs parents, ils n'avaient pas les moyens, etc. Et qui ont fait une baraque à hot dog et puis ensuite ils sont allés, je sais pas quoi, faire des petits jobs, mais ils ont tenu le coup pendant 3 ans, les mecs, etc. Je dis, ceux-là, ils ont l'épaisseur, ils ont la peau. Après, il faut que je vois si le reste en matière d'idées, etc. Mais ça vaut de l'or en barre. De l'or en
La
barre.
résilience.
La résilience, la niaque. La niaque. Moi, par exemple, quand j'interviewe des fondateurs pour aller un peu plus loin, je leur demande de me parler de leur enfance. C'était quoi ton enfance? Ah, ton enfance, elle était tranquille, peinarde, etc. Tu dis, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur, mais ça remonte à quand? Raconte-moi le premier jour où tu as rêvé d'être entrepreneur, il se passait quoi ce jour-là? Tu faisais quoi? Tu as déjà vendu un verre de limonade dans ta vie? T'as jamais rien vendu dans ta vie? Difficile, tu vois, parce que là, tu vas passer. Tu deviens entrepreneur, tu deviens vendeur du jour au lendemain. Tu vends à tout le monde. Tu dois vendre à des gens de venir bosser chez toi alors que ta boîte, elle n'existe pas, elle n'a pas de nom, tu payes mal. Tu dois vendre à des investisseurs ton equity alors que tu as un bout de papier. Tu dois vendre à des clients des produits qui n'existent pas. Tu dois vendre à des clients, tu dois vendre à des partenaires de travailler avec toi alors qu'en fait, tu n'existes pas. Enfin, passe ton temps à vendre. Si tu n'as jamais rien vendu de ta vie, c'est difficile, tu vois. En tout cas, s'il n'y en a pas un dans l'équipe, parce que pas tout le monde, mais il faut qu'il y en ait un qui. Il faut que la personne aime ça. Moi, j'adore vendre, tu vois. Moi, je travaille depuis l'âge de 11 ans. Mais c'est un kiff. Moi, je ne travaillais pas, tu vois. C'est mon kiff. J'adore. J'adore ça, tu vois. Le mec, il me dit non. Putain, il va voir. Il va voir ce qu'il va voir. Tu vois. Attends-moi. Je reviens. Tu vois. Mais tout le monde n'est pas obligé d'être comme ça. Hein, mais pour être entrepreneur, il faut. Il faut. Et
Il faut,
donc,
ça va comment la vente aujourd'hui pour toi?
comment je vois l'avance, c'est-à-dire?
Tu la prends comment? À quelqu'un qui est introverti, où
Ouais,
tu dis
c'est plutôt
vas-y,
quand t'es sec et t'es trop
sors ta zone
introverti.
de...
Non, mais il y a, en fait, moi, j'ai découvert, moi, je suis extroverti, donc je sais pas comment te dire comment t'es introverti, comment tu fais, mais j'ai découvert, en fait, je connais plein d'introvertis qui sont excellents vendeurs, en fait. C'est juste qu'ils vendent différemment de moi. Mais comment tu vends, on s'en fout. C'est le fait que ça marche et que ça te dégoûte pas de ta vie de le faire, tu vois. Quand tu es introverti, il y a des techniques, il faut demander à des introvertis. Je ne suis pas là pour parler à leur place, ils sont mieux placés. Souvent, moi, les introvertis que je vois vendre bien parce que j'ai investi en eux, c'est parce qu'ils sont techniquement hyper sharp, en fait. Ils créent des aha moments à leurs clients, tu vois. Ils n'ont pas besoin de parler, mais souvent, tu vois, notamment quand c'est de la vraie tech, moi, j'aime bien investir dans la vraie tech, ce qu'on fait moins en France qu'aux États-Unis. Tough tech, ce que j'appelle, ce qui n'est pas de deep tech, ce n'est pas pareil, tu vois, mais du vrai soft et tout. En France, on fait beaucoup de play où l'essentiel c'est du go-to-market en fait. Et c'est ça qui est difficile aussi, c'est que le marché est petit, tout le monde s'y met. Dès qu'il y en a un qui a la bonne idée, il y en a 12 qui débarquent et du coup, on se retrouve à un paquet,
Ouais.
c'est de l'argent VC dans again, du SEO, du Facebook Ads, etc. Ou de la force de vente qui finit par sauter d'une boîte à l'autre parce que tu leur rajoutes 10% de salaire. Mais les fondateurs tech qui vendent, c'est ce qu'il y a de plus magnifique parce qu'en fait, ils vendent vraiment des solutions aux problèmes de leurs clients, tu vois. Et ils comprennent les problèmes de leurs clients, ils sont en phase avec les clients, le mec dit ouais, je fais ça, je dis, ouais, mais je comprends parce qu'il t'arrive ceci, cela, et puis en plus, en matière de redondance, ça va pas, et puis l'utilisation de ta capacité de cloud, elle est naze, à cause de ça, ils mettent des chiffres et tout, moi je suis pas capable de le faire, et puis ils disent, mais moi j'ai créé un truc, tu plug ici, tu fais comme ça, regarde, tac, 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 boum, ça marche, et les clients, ils sont, waouh, t'as vendu. T'as pas besoin de parler beaucoup.
C'est vrai.
C'est ça que tu veux. Et c'est ce que je cherche dans le deck, tu me disais le deck, c'est, bah, wow. J'étais où?
Ah,
Je
ouais.
faisais quoi pendant que ces mecs-là existaient, tu vois? J'étais où? Tu vois, mais j'ai plein de gens, des gens que je peux te donner des noms comme ça, les mecs sont arrivés, je me suis dit, putain, mais grave, mais trop bien, t'as incroyable, je veux faire partie de la vie de ces gens-là.
Mais juste, enfin, juste pour conclure sur ça, c'est que aujourd'hui avec toutes les tous les tools d'IA générative, est-ce que tu penses que c'est important, c'est toujours aussi important pour un fondateur d'être technique, ou alors de bien savoir manier ses outils et de les mettre à profit, c'est ce qui va faire la différence, et aussi son rapport à l'autre, à ses
Je pense
compétences.
que de bien savoir manier des outils d'IA, de savoir prompter bien et de savoir bien faire ça, c'est technique. C'est la nouvelle technique. Je viens de voir un post LinkedIn d'un job aux États-Unis qui s'appelle Agent Manager. J'avais jamais vu ça. Magnifique.
Qu'est-ce qu'on fait avec collègues?
Extraordinaire. J'ai presque envie de me candidater pour savoir à quoi ressemblent les interviews, tu vois. Mais après, ils vont voir un post LinkedIn, ils vont dire qu'est-ce qu'il a à foutre là-dedans, ce mec-là, il est trop
Fait du
bien.
N8N. Fais-nous du N8N et des agents en interne.
C'est extraordinaire.
Ouais,
Extraordinaire. C'est technique ce job-là. Bien sûr, c'est technique.
technique.
C'est technique, c'est une nouvelle technique.
Grave.
On va voir des licornes avec trois personnes. Je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Je pense que ces personnes-là auront plutôt tendance à être techniques. D'une manière ou d'une autre.
Les
Et aux États-Unis,
leaders.
le truc, c'est qu'on fabrique les enfants aux États-Unis à un jeune âge à savoir vendre aussi. Tu vois, le stand de Lemonade, tout le monde se fout de la gueule du stand de Lemonade, mais c'est extraordinaire le stand de Lemonade. Moi, jamais je passe devant un stand de Lemonade sans acheter un truc et sans tirer un peu sur la ficelle vendeur de la gamine ou du gamin de 7 ans qui sont en face de moi. Et tu vois, et il m'est arrivé une fois à San Francisco, un stand de Lemonade en bas de chez moi, j'ai laissé ma carte aux parents en disant, quand votre gamin a 17 ans, appelez-moi. Voilà. De
Johnny, tu peux lui dire que tu as plus de 17 ans maintenant.
Non, mais tu vois. Et mais on fait pas ça en France, tu vois combien de stands de limonade à Paris dans la rue? Rien, zéro. On vend pas. On vend pas.
Moins la culture. C'est moins la culture. C'est plus, on va plus froisser les gens à leur vendre quelque chose.
Ouais. Moi, il y a plein
Peut-être.
de jeunes qui me demandent des conseils d'orientation, qui font des écoles de commerce et tout. Ils me disent non, mais je dois faire quoi? Parce que moi, je voudrais travailler dans la tech, machin, etc. Tu sais coder? Non, ok. T'as fait ingénieur non plus? Non. Tu utilises quoi comme app? Montre-moi ton téléphone. Je regarde un zap, je dis bon, comme tout le monde, t'as Insta, etc. T'es pas un nerd, ok. Sales. Oublie tout le reste. Non, mais les finances et tout, bon, ça va être automatisé par l'AI. Sales. BizDev, sales. Fais ça. Vends des trucs à des gens. Mais essaye de les vendre des trucs compliqués à des gens difficiles que tu n'as jamais rencontrés à ta vie. D'ailleurs, casse-toi d'ici, va à Singapour, vends des trucs. Vends, 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 vends. Ça, t'es tranquille. Tu auras toujours un job.
Super.
Ah, merci beaucoup Cyril. Pour finir, est-ce que tu as un livre, un film ou une série que tu recommandes?
Un quoi?
Un livre, un film ou une série que tu recommandes? Ou un podcast?
Oh, plein. J'ai
Un
été
particulier qui t'a marqué? Ouais.
j'ai adoré Silo sur Apple TV. Adoré Silo. Faut que les gens regardent, hein, parce que c'est la futurologie de l'histoire de l'humanité d'aujourd'hui. Super bien fait, c'est extraordinaire. Silo. Le bouquin pour Charlie's Almanach sur Charlie Munger. Ah là, dans la série, je te dis des trucs cash avec le minimum de mots, sans te raconter de salade et zéro bullshit et avec des leçons de vie extraordinaires, extraordinaires. Tout fondateur devrait lire Charlie Munger.
Ok. Il y a un invité à recommander pour le podcast qu'on devrait recevoir.
Ouais, j'ai regardé un peu qui vous avez invité dans le passé. Inviter quelqu'un de biotech en France. Inviter un partenaire de Sophienova.
Okay.
Hawking, très bien. Hawking, très bien. Ah, j'ai oublié son nom. Il y avait un garçon qui est d'origine africaine, qui avait monté une boîte de robots médicaux à Toulouse, je crois. Magnifique histoire. Et l'histoire personnelle, j'ai oublié son nom. Cherchez. Histoire personnelle. Magnifique. Magnifique. Médaille d'or. J'oublie comment
Ok.
son nom. Mais vous trouverez très
Ça
facilement.
marche, je vais trouver. Ok, merci beaucoup Cyril. Merci, on ne va pas prendre plus de temps, on a un peu débordé, mais j'espère que tous ceux qui t'ont écouté et toi aussi, c'est un épisode assez cool. En tout cas, plein de bonnes choses. On aurait pu durer 3 heures, on a une tonne de questions encore, on ne va pas tout faire. Ce sera pour un prochain épisode ou un café quand on sera sur New York. Mais avec grand plaisir.
Merci à vous. Ça
Avec
marche.
plaisir.
Salut, bonne continuation.
Salut. Salut.